artistes conteurs médaillés d'or des 8e Jeux de la Francophonie à Abidjan en 2017. Je suis directeur artistique du festival RIAP, comme je l'ai dit tantôt. Et le festival RIAP, c'est les rencontres itinérantes des arts de la parole et du langage. Et le festival a lieu tous les 2 ans. Voilà. Donc, le festival RIAP était le premier festival que l'Espace Ciné a commencé à organiser. Et depuis 2018, donc, il y a eu la première édition d'un second festival, donc, dans l'enceinte, festival de théâtre de petite forme, qui a pour mission que le théâtre et un peu de la musique. Et aujourd'hui, nous sommes à la 2e édition qui aura lieu du 19 au 26 juin 2020. Donc, les RIAP, c'est l'année prochaine en 2021, mais la période n'est pas encore définie, mais c'est en mois de juin. Mes prochaines dates de spectacle, en septembre, du 4 au 22 septembre, du 14 au 22 septembre, je serai en France, en Mayotte, et en décembre, Martinique. Et voilà, pour l'instant, c'est ça les dates que j'ai déjà bouclées. Et après, une tournée entre novembre, ici en Guinée-Conakry. Mais nous sommes en train de commencer les démarches pour pouvoir organiser cette tournée.
Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio.
Yélé, 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 oui, yélo, yayo, yélé, yayo, yélé. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelait Samba. Samba était né d'une famille pauvre. Il habitait avec son père et sa mère. Son père était le plus grand chasseur du village, mais il était déjà âgé, il ne pouvait plus aller à la chasse. Alors un matin, il se réveille, il appelle son fils, il dit « Mon fils, tu as aujourd'hui tes 10 ans et je pense que tu es capable de prendre ma place en tant que chasseur du village. Alors prends mon fusil et va à la chasse, ramène-nous du gibier. » Le petit Samba prend donc le fusil de son père, il se dirige donc dans la forêt. Il a marché pendant des heures, et quand il arrive à la forêt, il a commencé à chasser. Au bout de la nuit, le petit Samba revient avec un gibier à la maison. Son père et sa mère étaient tellement contents. Alors, le lendemain matin, il a pris son fusil, il est parti. Et le soir, il est revenu avec un petit gibier à la maison. Et tous les jours, le petit Samba partait à la chasse et il rentrait avec un gibier. Il était devenu un expert de la chasse. Il ne pouvait pas rater sa cible. Mais un jour, il se réveille au moment de partir à la chasse, à la croisée du chemin, au carrefour du village. Il rencontre l'un de ses amis qui lui dit « Mais Samba, depuis tant de mois, tant d'années, tu ramènes du gibier à tes parents. Pourtant, ils sont encore forts. Ça veut dire qu'ils peuvent prendre soin d'eux-mêmes. Alors écoute, on va construire notre pauvre petite cabane dans la forêt, et toi, tu vas vivre avec nous. » Le petit Samba a écouté les conseils de ses amis, mais hélas, il est parti avec ses amis. Ce jour-là, il n'était pas reparti à la maison. Il est resté pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Mais un jour, Samba a voulu mettre à l'épreuve ses amis. Il se disait, est-ce que mes amis aiment réellement ou ils veulent seulement le fruit de ma chasse? Alors un matin, il va à la chasse et il laisse son gibier à la forêt. Il repart vite voir ses amis pour dire « Les amis, s'il vous plaît, j'ai commis des erreurs dans la forêt. Au lieu de tuer un gibier, j'ai tué un homme. Est-ce que vous pouvez venir m'aider ?» Le pauvre Samba n'avait pas fini sa phrase que les amis avaient déjà disparu. Il était resté seul. Alors, il n'avait que son père. Il repart voir son père. Devant son père, il dit la même chose. « Papa, j'ai tué un homme au lieu de tuer un gibier. » Son père qui lui dit « Mon fils, va me montrer où tu as tué cet homme avant que le village ne soit alerté. » Ils sont partis. Curieux, le père arrive sur place. Il était étonné de voir, au lieu que ça soit un homme, un être humain, c'était plutôt un lion. Alors, le père dit à son fils, « Attention, les 5 doigts de la main ne sont pas tous pareils. Ce qui veut dire, il faut vivre avec les gens pour mieux les connaître. Viens, quelle que soit la longueur de tes oreilles, ils ne dépasseront jamais ta tête. » C'est l'histoire que mon grand-père m'a racontée.
C'était La Part de l'Ange sur Africa Radio avec Ange Gras.
Africa. cas.
Merci pour ces moments d'évasion qui nous permettent de bien terminer cette semaine. C'est vendredi, c'est le 25 septembre 2020. Notre prochaine invitée nous rejoint dans quelques minutes. Avant cela, la pause qui arrive et tout de suite, musique sur Africa Radio. Sing us, sing, sing us. Merci de nous rejoindre. On va se retrouver juste après la pause avec notre deuxième invité de la matinée. Bougez pas.
Ambiance Africa.
Ambiance.
Ambiance Africa.
Africa.
Avec Aïssa Cham.
Peut-être des crimes, et ce sera de malheur en malheur. Mais si tu marches selon les conseils de Dieu, selon la parole de Dieu, tu ne seras jamais confondu à ceux qui souffrent, à ceux qui sont désespérés. Dieu est ta lumière, Dieu t'a donné Jésus, Jésus est ta puissance pour que tu gagnes. Tu réussisses, mon enfant, choisis. Choisis la vie et tu vivras. Si tu choisis la mort, tu mourras.
Toi qui cherches ton bonheur, tu le trouves pas à pas.
Oh mes enfants, il faut marcher.
Marche pas à pas.
Marche pas à pas.
Notre deuxième invité de la matinée, Dominique Kunku, est installé sur le plateau d'Africa Radio. Alors, je ne sais pas vraiment si je dois vous appeler maître ou révérend. Dominique Kunku, vous êtes avocat, vous êtes pasteur, mais aussi chantre. Vous êtes venu nous parler de votre actualité à travers la sortie ce jour de Madia Mazulu. C'est votre album, donc, pour rendre gloire à l'Éternel. Alors, merci de nous rejoindre sur l'antenne d'Africa Radio. Le droit, la sociologie, la théologie et l'art à présent. Vous êtes un véritable touche-à-tout, hein, Dominique Kunku. Bonjour, bienvenue.
Merci, merci beaucoup, Madame Aïssa, de me recevoir. Oui, mais je crois que nous tous, autant que nous sommes des touche-à-tout. Ouais. Nous faisons beaucoup de choses, nous sommes doués de temps, de talent. Et je crois que l'intérêt, c'est d'arriver à les faire sortir. Et dans Madia Mazoulou, c'est vrai que je surprendrais beaucoup de personnes. Mais vous savez, le chant, la chanson, un grand auteur de chez vous avait dit que la poésie est l'art majeur. Vous savez bien de qui je parle.
Oui, bien sûr.
Monsieur Léopold Sédar Senghor. Oui. Il était président quand je suis passé dans votre pays. Et je me rappelle avoir assisté ici à une conférence d'un grand aussi dans le domaine de la musique. Comment s'appelle qui disait, j'ai dit déjà ce qu'il a, parce que, alors il disait que la chanson est un art mineur. Mais moi je pense que c'est Serge Gainsbourg. En combinant les deux, j'ai envie de dire que c'est plutôt la chanson qui est vraiment un art majeur.
Ouais.
Parce qu'à l'intérieur, il y a la poésie, il y a le chant, mais il y a aussi le fait que nous qui croyons en Dieu, nous savons qu'il est dit, tout au moins dans la Bible, il dit que Dieu habite la louange de son peuple. Alors si déjà Dieu vient habiter notre chant, ça montre que vraiment le chant a une dimension non seulement universelle. Vous savez, je suis sûr que depuis que vous êtes levé ce matin, vous avez fredonné plus d'une chanson.
Donc, absolument.
Voilà. Donc nous tous, nous sommes habités par le chant.
Ouais.
Et donc tous ces engagements, en étant avocat, docteur en droit, en étant théologien, en étant aussi sociologue, mais tout se retrouve dans la même personne au fond. Hein, vous voyez.
Comment on trouve du temps en fait pour mener de front toutes ces activités? Vous avez un cabinet d'avocat, vous êtes révérend, vous enseignez aussi peut-être. Alors comment on trouve du temps pour entrer en studio et sortir une œuvre?
Mais je pense que le temps est toujours disponible, c'est ça qui est étonnant. Mais c'est à nous de pouvoir lui permettre qu'il entre dans notre vie pour qu'il puisse l'organiser.
Oui.
Et c'est aussi dans cette organisation qu'on rencontre des grands maîtres. J'ai rencontré un grand homme dans le domaine de l'art, Johnny Claude, hein, du studio Loni.
Oui.
Il a accompagné beaucoup de personnes, mais je dois dire que j'avais entendu chanter ma maman. C'était là s'il y avait une première institutrice dans le domaine de la chanson, c'est ma propre mère.
Ouais.
Et aussi la vie m'a appris beaucoup de choses. Nous, quand on sommes du côté du Congo-Brazzaville, on a beaucoup entendu les mélodies qui ont été fredonnées, composées à Kinshasa. Donc tout cela, on l'a reçu. Mais c'est vrai que l'encadrement, je l'ai beaucoup reçu de Johnny Claude. Johnny
D'accord.
Claude m'a beaucoup accompagné, m'a appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas. C'est toute une université, en fait. Et je crois que l'erreur que nous commettons souvent, on a tendance à marginaliser les artistes. Mais en réalité, c'est eux qui nous apportent du beurre dans la vie, qui nous apportent la mélodie, qui nous apportent la théorie.
Qui nous apportent le bonheur.
Oui, le bonheur et la beauté, ce plaisir d'aimer la vie. Vous voyez, vivre a besoin du chant. Pour que la vie puisse avoir du sens. Et Madia Mazoulou, c'est un cadeau. C'est un cadeau à la fois céleste, puisque le titre, c'est « Les aliments célestes ». Madia Mazoulou.
Oui,
les aliments, les nourritures de Dieu.
D'accord.
Nourriture que Dieu nous donne.
Oui.
Donc toutes ces chansons, tous ces chants qui sont là, tous ces écrits, c'est vraiment des dons de Dieu. Et j'espère que ceux qui vont à partir d'aujourd'hui découvrir Madia Mazoulou seront aussi accompagnés comme moi-même j'ai été, je continue à être accompagné par ces chansons qui sont là. Et celui que vous avez mis tout à l'heure, c'est
Pas à pas.
J'ai envie de dire, c'est un peu la typologie du travail de la vie de chacun de nous.
Oui.
Nous cherchons le bonheur, mais il faut le chercher pas à pas. Nous cherchons de l'argent, il faut le chercher pas à pas. Nous cherchons le pouvoir, quelle que soit la forme du pouvoir. Ça peut être à travers des engagements politiques ou autres. Nous cherchons, c'est aussi pas à pas. C'est-à-dire que nous-mêmes, quand on regarde notre vie, parfois on a été trop vite. Ouais. Une fois ou deux, et ben, on s'est brûlé les voilà.
Donc on revient au temps et au rapport au temps dont on parlait tout à l'heure. Alors pour raconter un petit peu votre histoire qui est assez particulière, en tout cas très surprenante, vous êtes né au Congo-Brazzaville, vous avez étudié à Brazzaville mais aussi à Dakar, oui, avant d'intégrer la direction nationale de la Banque des États de l'Afrique centrale. Après la Banque des États de l'Afrique centrale, vous arrivez en France pour préparer le diplôme des études comptables supérieur, vous découvrez la sociologie mais aussi la théologie après la lecture de livres du pasteur Martin Luther King, et c'est un peu lui qui vous a, on va dire, décidé à prendre cette direction vers la sociologie et la théologie, que vous étudiez à la Sorbonne jusqu'au diplôme des études approfondies d'EA actuel Master 2. C'est à la faculté libre de théologie évangélique à Vaux-sur-Seine près de Paris, au centre Sèvres, et à la faculté protestante que vous étudiez, donc la théologie. Vous inscrivez ensuite à la Sorbonne vous faites aussi en parallèle des études pour devenir avocat. Vous êtes aussi auteur, vous avez publié de nombreux ouvrages, plus d'une dizaine, avec on va dire principalement la question de la religion, et notamment un ouvrage très connu qui a bien fonctionné, intitulé « La religion, une anomalie républicaine, point d'interrogation ». Alors, c'est plusieurs vies dans une, hein, j'ai l'impression, lorsque l'on regarde un peu votre trajectoire et votre parcours, Dominique Kunku.
Oui, mais en fait, c'est... J'avais beaucoup été interrogé par un homme que nous devons tous honorer, au même titre que le président Léopold Sédar Senghor, c'est Aimé Césaire.
Oui.
Et vous savez, Aimé Césaire parlait beaucoup des armes miraculeuses. Et je crois qu'on n'a jamais assez saisi qu'à côté des armes, les bombes, tout ce qu'on utilise, il y a aussi l'intelligence. Et j'ai pris cela comme un défi en disant que mais ces armes miraculeuses, j'ai envie de les acquérir, au moins à ma mesure. Ce qui était dans mes possibilités, j'ai pu le faire. J'ai pu en effet faire la théologie qui m'a beaucoup, beaucoup instruit moi-même, qui m'a ouvert aussi la voie pour la compréhension de beaucoup de phénomènes comme la sociologie des religions.
Ouais.
À un moment donné, je me suis beaucoup engagé ici en France. On en a parlé d'ailleurs dans ce studio. quand il y avait le fameux... c'était la guerre... aux sorciers, enfin la guerre aux religions, à toute pratique religieuse. Je me suis battu pour que les libertés religieuses dans un grand pays comme la France soient reconnues, et je crois que ça l'est et ça continue à l'être. Je me suis battu aussi à travers le droit. Le droit m'a été à la fois conseiller, mais aussi... parce que quand j'étais en Sorbonne, avec le professeur Bobero, je faisais une théologie sur le passage de l'information religieuse dans la société globale.
Oui.
Et alors, elle a dit, mais il faudrait peut-être que vous ayez des notions de droit. Et c'est vrai que je n'en avais pas. Je me suis inscrit à Nanterre, et puis ce qui était uniquement des notions, finalement, c'est devenu une carrière. Et donc, j'en suis sorti avec une thèse dont le livre est sorti, ça s'appelle « Monnaie africaine », paru aux éditions de l'Armaton. Et c'est un livre qui fait autorité dans ce grand débat sur le franc CFA.
Oui, qui est étudié par des universitaires africains et des chercheurs un petit peu partout à travers le monde.
Oui, j'étais surpris de voir ce livre à la bibliothèque du Congrès aux États-Unis, à Washington. Et c'est un livre qui... J'ai beaucoup aimé parce que moi, vous savez, quand on écrit, parfois on écrit avec beaucoup de passion. Et c'est un livre assez dépassionné, très technique.
Ouais.
Et je pense qu'à l'intérieur, je donne aussi beaucoup de clés pour ceux qui veulent, qui se battent beaucoup pour l'avenir de l'Afrique, surtout cette polarisation par rapport à ce qu'on appelle l'influence des pays étrangers sur l'Afrique.
Ouais.
À l'intérieur, il y a des clés de droit qui peuvent aider à sortir facilement de toutes les conventions anciennes qui avaient été signées au temps du roi Makoko et d'autres, en fait. Voilà. Donc, disons... C'est beaucoup de vies dans une, mais en réalité, c'est une seule vie qui s'est laissée interroger, s'est laissée questionner. à des questions de droit, des questions sociologiques, des questions juridiques, des questions africaines aussi.
Des questions africaines, justement, on va en parler à travers, dans un instant, le prochain titre que nous allons écouter, un titre où on sent l'engagement, ou en tout cas l'envie d'aider ou de parler aux plus faibles, donc l'envie d'aider les faibles face aux puissants dont vous êtes animés. En fait, c'est l'un de vos combats, oui. Un combat que vous menez également contre les dictatures et les chefs d'État qui commettent des génocides, dites-vous.
Oui.
Et d'ailleurs, pour cela, en 2019, vous vous êtes présenté à l'élection présidentielle du Congo. En fait, vous dites « Ma candidature était une candidature de témoignage qui annonce que le peuple existe encore, qu'il vit par la foi l'espoir du changement, qu'il existe la politique qui rende la prospérité sur cette terre que nos enfants nous ont prêtée. » C'était un acte symbolique, cette candidature en 2009.
Oui, tout à fait. Oui, parce que vous savez, la dictature du Congo, c'est maintenant internationalement connu. C'est plus que Pinochet. Donc, c'était un moment. Il fallait oser pour quitter la France et aller se présenter là-bas. La preuve, on m'a plusieurs fois caché le passeport pour que je ne revienne pas ici en France, pour que, évidemment, vous connaissez le sort qui en est fait après, par la suite. Hein,
ouais.
On vous arrête, ainsi de suite. Mais dans le même temps, la carrure que j'ai, et j'en rends grâce à Dieu, au niveau international, a fait qu'ils ont eu peur. Mais il fallait témoin, parce que, vous savez, les dictateurs ont le sentiment qu'ils sont les seuls au monde.
Ouais.
Et c'est François Mitterrand qui disait qu'en fait, jusqu'à ce que le peuple leur situe la limite. Et je crois qu'être témoin, c'est arriver à dire, bon, ok, tu fais ce que tu veux, tu n'as fait que tuer depuis qu'il est entré dans la vie, il ne fait que tuer jusqu'à enterrer un cardinal vivant au Congo. Il fallait être témoin, donc j'étais témoin. Mais là, je me suis présenté, j'ai déclaré ma candidature, en fait, pour vraiment conquérir ce pouvoir, parce qu'il faudrait qu'il change de main, il faudrait que cette dictature s'arrête, que ces clans arrivent à comprendre que la vie humaine, on n'en abuse pas, que la prospérité, et comme j'ai dit, c'est notre terre qui nous a été prêtée. La terre, elle est à nous, nous l'avons prêtée à nos parents, ils en ont fait ce qu'ils ont pu. Nous, maintenant, nous devons préparer une terre pour que nos enfants soient heureux de rentrer dans ce pays, qu'ils puissent être heureux, comme ils sont heureux de rentrer dans votre pays. Vous savez, j'aime beaucoup votre pays, on y va quand on veut, comme on veut, ainsi de suite, selon ses propres moyens. Mais chez nous, on ne fait pas ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut que tout ce système-là change. Et c'est vrai que le pauvre, peut-être parce que mes parents étaient pauvres, le pauvre fait partie de mon combat.
Alors on va écouter ce titre, on va se retrouver juste après avec vous, hein, Maître Dominique Kunku. On écoute et on se retrouve dans un instant.
Merci.
Comment ? J'entends que vous avez fait de la haine et de la guerre toute une politique. Mais sachez qu'il y a un temps pour toute chose, même pour tout un peuple. Un temps pour tout quitter, un temps pour quitter la haine, un temps pour se découvrir enfant de Dieu, un temps pour voir que nous avons la chance d'être ensemble pour construire, car nous avons un même Père, notre Dieu. L'argent comme Dieu, qui ne cherche pas Dieu, mais qui vous donnera le bonheur si vous ne revenez pas à Dieu, si vous ne cherchez pas Jésus, c'est lui qui vous donnera la prospérité, la paix et le bonheur.
En compagnie ce matin du révérend Dominique Kunku qui est venu nous présenter Madiama Zulu. C'est tout frais, ça vient tout juste de sortir et c'est disponible à la vente. On vous dira où et comment vous le procurer dans un instant. Alors, petit flashback, si vous voulez bien, hein, Dominique Kunku. Alors, vous êtes près de Lyon, à Bron plus précisément, et c'est là que le tournant, c'est là un tournant de votre vie. Alors, lors d'une kermesse des églises évangéliques, un pasteur qui anime un stand contre la violence vous offre des ouvrages, dont deux écrits de Martin Luther King. Et ça a été une véritable révélation. Vous dites, Martin Luther King était le maillon manquant entre ma foi chrétienne et mon combat contre les injustices.
Tout à fait, tout à fait. Et jusqu'à présent, je suis très reconnaissant à ce pasteur qui n'est plus de ce monde. C'est un pasteur qui s'est beaucoup battu dans ce qu'on appelait à l'époque les mouvements de non-violence. Et il m'a en effet parlé du pasteur Martin Luther King, que je ne connaissais pas beaucoup. Et il s'est trouvé qu'il a dit, voilà, c'est un pasteur qui a prôné la non-violence. Et à mes yeux, ça m'a paru une grosse utopie.
Oui.
Et j'ai dit, même l'utopie parfois elle est belle, mais c'est un vendu. Comment dans ce monde où les blancs écrasent les noirs, où les blancs se sont arrogés tous les droits, tous les pouvoirs, comment est-ce que quelqu'un peut venir nous parler de la non-violence? Sauf que c'est un vendu, c'est un maillon du système, ainsi de suite, voilà. Et je crois que s'il était encore vivant, il en témoignerait, mais j'étais énervé. Mais alors, il m'a dit, écoute Dominique, ce que je peux faire, c'est de t'offrir deux livres de Martin Luther King. Tu vas les lire, et puis tu me diras ce que tu en penses. Et en effet, il me les a donnés. Et j'ai lu, jamais je n'ai lu avec autant on ne parle pas de dévorer, mais c'est plus que dévorer. Hein. C'était vraiment gargantuesque. Hein. Je me suis nourri du livre toute la nuit. Je n'ai pas dormi. Partout, je m'étais vendu. Ingrat, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Vous voyez, tous les collèges, je les ai déversés sur le pauvre livre. Et je crois que je me suis endormi comme cela, avec cette colère. Et le lendemain, c'est un dimanche, je me rappelle bien, j'ai relu le livre et étonnamment, tout m'a été clair.
Ouais.
C'était devenu pour moi évident qu'il était cohérent entre sa foi chrétienne, entre son engagement et aussi sa volonté de résoudre les problèmes de la vie, non pas les uns contre les autres, les blancs contre les noirs, mais résoudre vraiment de manière conscient, oui, de manière déterminée, ces problèmes. Et j'ai pensé que le Dr King était vraiment un modèle à suivre. Et c'est vrai que je comprends, même maintenant, quand parfois je parle de mon engagement politique, beaucoup de gens, non seulement sont sceptiques, mais également... que je parle parfois de la non-violence, de l'amour, de tout cela, ça paraît désuet, tout cela, vous voyez. Mais en réalité, c'est le chemin de la vie. Et je crois que si j'ai fait la théologie, je le dois au Dr King.
Oui.
Vraiment, c'est librement, je crois que c'est la révolution non-violente, l'autre c'est la force d'aimer, je crois.
Oui.
Voilà. Et c'est deux livres qui m'ont vraiment secoué, et j'ai même envie de dire qu'ils m'ont lavé, quoi, qu'ils m'ont lavé. Et je rends grâce à Dieu d'avoir rencontré, pas physiquement, Dr King, mais disons à travers ce livre, mais aussi d'avoir rencontré ce pasteur qui m'a interpellé, qui m'a fait sortir de ma zone de confort. Je crois que c'est ça qui m'avait beaucoup énervé, parce qu'on a tous une zone de confort. Hein, voyez, mais quand il s'agit maintenant d'appliquer véritablement ce que nous voulons pour obtenir des résultats, et parfois on n'est pas efficace. Et la méthode non violente, vraiment prise dans le sens le plus profond,
oui,
est une vraie solution politique, y compris pour aujourd'hui. Si cela a fait des preuves chez Gandhi, en Inde, a fait des preuves aux États-Unis, ben ça ferait des preuves partout. Partout.
Voilà. Alors, malgré votre lourd parcours, votre savoir et toutes ces connaissances, on sent quand même une certaine sérénité chez vous. Il y a la pondérance, la sérénité, le calme. Ça vient d'où ?
J'ai envie de dire peut-être de mon père.
D'accord.
De mon père, parce que cet homme, souvent, nous parlons beaucoup des mamans parce qu'elles sont les plus proches. C'est les accompagnatrices de tous les jours.
Et surtout qu'elle a beaucoup fait pour vous, en tout cas, elle a toujours cru en vous.
Oui, oui, la maman a été un soutien véritable. Mais ce qui est étonnant quand je regarde à travers le passé, papa, cet homme a toujours été d'un calme absolu.
Oui.
D'un calme absolu et surtout une... Je ne l'ai pas vu s'énerver contre moi, mais dans le même temps, beaucoup de ses paroles me sont restées jusqu'à présent. Et à travers lui, j'ai compris un peu que la dimension humaine a besoin de beaucoup de tendresse.
Ouais.
Souvent, on est violent les uns envers les autres, les parents envers les enfants. Dans le couple aussi, il y a beaucoup de violence. On s'insulte, on se dit beaucoup de choses parfois qui ne sont pas très agréables à entendre. Mais j'ai découvert chez cet homme une manière... Ça, on peut l'appeler sagesse, mais moi, en tant que fils, je l'ai ressenti, je le ressens toujours comme une tendresse. Et ouais, je crois que tout a besoin de tendresse. Je pense que même l'engagement politique, quelle que soit la forme, a besoin de tendresse. C'est pour ça qu'on parle de l'amour de l'ennemi. Vous voyez, l'ennemi, on l'aime.
Ouais.
Mais aimer l'ennemi, ce n'est pas accepter qu'il continue à tuer. S'il faut même le mettre en prison, je le ferai. Mais cela étant, il verra que mes actes, c'est des actes qui sont dirigés par un besoin de justice. Et donc, je crois que cette tempérance, elle est liée à ça, mais elle est aussi liée à ma foi chrétienne, qui m'a beaucoup apporté. Et dans la foi, j'ai eu beaucoup de belles rencontres. Et parmi les plus belles rencontres que j'ai pu faire dans la foi, c'est celle de Roger Schultz.
Oui.
Roger Schultz, c'est le frère qui a animé, qui a créé la communauté qu'on appelle la communauté de Thésée. Vous ne connaissez peut-être pas.
Pas du tout.
C'est, en tout cas, c'est au centre de la France,
oui,
à Mâcon, à Thésée exactement. C'est une communauté œcuménique qui a été créée par un jeune pasteur suisse,
oui,
qui était venu là et puis qui a voulu créer une communauté. Et puis, comme on dit, la communauté a prise et maintenant, il est déjà décédé, mais la communauté est présente partout dans le monde. Et eux aussi, dans la relation avec Dieu, il y a beaucoup de tendresse. Il y a le sens que Dieu n'est qu'amour. Que Dieu, quand Dieu devient jugement, Dieu n'est plus là. Quand Dieu devient violence, Dieu n'est plus là. Et je crois que ça, c'est des réalités dont vous comme moi, nous avons besoin. Nous avons besoin. Et c'est peut-être cela aussi qui est dans cet album. Dans cet album, c'est aussi la Madia Mazoul, c'est humblement recevoir de Dieu les aliments qui permettent de donner à sa vie du sens,
oui,
de lui donner de la beauté. Et moi, j'aime beaucoup la beauté. J'aime aussi la prospérité. parce que je crois que tout combat doit conduire à la prospérité dans les familles, la prospérité dans la vie de tous les jours, mais aussi la prospérité dans le... Comment je peux dire ça ? Quand vous avez vu une famille qui est pauvre,
oui,
et que vous voyez que dans cette pauvreté-là,
la dignité,
il y a beaucoup de dignité, il y a aussi beaucoup de jeunes pousses, de jeunes pousses qui ont vraiment besoin d'être épanouies, d'être élevées, d'être accompagnées, mais on est heureux, on est heureux.
On va écouter un dernier titre dans un instant, Mfumwani, que ça veut dire
Mfumwani, littéralement, c'est mon roi. Dans le contexte, c'est mon seigneur. Et alors, ce qui est intéressant dans ce titre, c'est le fait que Mfumwani, c'est dire, voilà, je suis entouré des problèmes, des difficultés. C'est-à-dire que c'est pas ça, vous êtes déjà arrivé, il y a des moments où on est submergé par les problèmes.
Oui.
On a le sentiment qu'on s'en sortira jamais. Mais dans le même temps, il y a une espérance qui est là, qui dit qu'au fond, on n'a jamais vu. J'aime beaucoup cette phrase, il y a une phrase dans ce texte-là qui dit « Jusqu'à présent, je n'ai jamais vu que quelqu'un s'est confié à toi et que la personne est morte. » C'est-à-dire que les soucis l'ont submergé jusqu'à mourir. Et parfois, au dernier moment, on a toujours ce réflexe-là que Dieu est là. Et quand Dieu est là, la lumière vient. Et quand la lumière vient, la vie aussi vient.
On va se quitter dans un instant avec ce titre. J'avais juste envie de profiter de votre présence pour parler d'un sujet rapidement et vous poser une question. Alors, quel est le regard que vous portez sur la condition des Noirs dans le monde aujourd'hui en 2020, rapidement, avant d'écouter le dernier titre?
Moi, je pense que je parlais, comme on dit, sans langue de bois.
Faites-vous plaisir.
Voilà. Je pense que la race noire est la race la plus puissante au monde. Et elle est la plus puissante, je crois. On a seulement vu les côtés morphologiques, mais elle est puissante en ce sens que elle a peut-être des origines que jusqu'à présent on n'a pas suffisamment recherchées.
Oui.
Qui était Jésus? Qui était-il? Était-il blanc? Était-il noir? Et je crois que beaucoup d'hypothèses viennent confirmer l'idée que c'était un noir. Qui était Moïse? Qui était Abraham? Je crois qu'il y a aussi, on va dans ce sens-là. Et pourquoi j'ai dit qu'elle est la plus puissante? Parce qu'elle fait peur. Parce qu'autrement, on ne comprenait pas pourquoi ces violences. On n'a pas les mêmes violences envers les Asiatiques, on n'a pas les mêmes violences envers les Maghrébins, enfin, envers les Arabes, ainsi de suite. Et tout le monde est concentré, je dirais, pratiquement envers les Noirs. Et je crois que le problème, c'est que le Noir se laisse emporter par cette violence-là. Au lieu que cette violence devienne, symptomatique.
Oui.
Cette violence devait nous interroger. Pourquoi est-ce qu'on est violent envers moi? Pourquoi on est violent envers nous? Pourquoi de partout cette violence se tourne vers nous? Et cette question, elle est importante, elle est clé, parce qu'elle permettra non plus... Regardez par exemple l'Afrique. L'Afrique n'a toujours eu qu'un discours contre le blanc. Mais peut-être qu'on devait se demander pourquoi est-ce que le blanc nous a colonisés. On a même le sentiment, on risque de laisser le sentiment à nos enfants que l'Afrique n'a existé qu'à partir de la colonisation.
Absolument.
La colonisation, Madame Thiam, vous le savez bien, je dirais, la colonisation était un artefact par rapport à toute l'histoire, la grande histoire africaine. Donc peut-être qu'on devrait arriver à comprendre que nous avons de la puissance et cette puissance fait que le monde entier a peur. Et si le monde entier a peur, c'est une bonne chose et il faut que nous-mêmes nous regardons comment reconstruire cette puissance et la faire émerger.
Le révérend Dominique Nkou est notre invité musical en cette fin de semaine et on vous recommande Madiama Zulu. C'est disponible où, révérend?
Alors, c'est disponible d'abord sur les nets. Hein, donc, vous savez, maintenant, avec les nets, on a tout. Madiama Zulu, voilà, peut être commandé aussi au studio Loni. Vous pouvez aussi me téléphoner, mais aussi c'est disponible dans tous les points de vente, hein, les grands points de vente, la FNAC et puis partout, ainsi de suite, voilà. Et en Afrique, la semaine prochaine, c'est sera disponible, voilà.
Merci, ça a été un plaisir de vous accueillir ce matin pour parler de cette œuvre Madia Mazoulou, à laquelle on souhaite longue vie, révérend Dominique Onkou. Merci beaucoup.
Merci, la grande journaliste que vous êtes.
On finit en musique. Sur Africa Radio, en ce plaisir, en cette fin de semaine avec le révérend Dominique Onkou. N'hésitez surtout pas à vous procurer à son œuvre dans un instant. Et l'info qui arrive, présentée par Nadir Djenad, c'est juste après la pause, bougez pas.